BFM Business présente. BFM Entreprise, les outils RH. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Entreprise, l'émission qui plonge au cœur de la vie des boîtes tout au long de la semaine. Vous le savez, le lundi, on parle de leadership, le mardi, des outils RH, le mercredi, de croissance et le jeudi, de transmission. Les outils RH aujourd'hui est un sujet qui revient régulièrement depuis plusieurs mois dans cette émission, la transparence salariale. Alors où la France se penche sur le sujet, enfin, même si elle a du retard, on va regarder où en est la directive, ce qu'elle va changer dans les performances des collaborateurs, dans leurs évaluations, de quelle façon aussi les entreprises s'approprient ce sujet. On le voit, ça prend du temps. Mes invités ce midi, Marie Bouny, associée chez SIA, spécialiste de la stratégie sociale et de la performance durable. Bonjour Marie.
Bonjour.
Ravie de vous avoir sur le plateau. À vos côtés, Pierre Gousset, vice-président en charge de l'innovation chez Workday pour l'Europe. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Boutena Burkel est également avec nous, fondatrice du cabinet de conseil The Helper et auteur. Bonjour Boutena.
Bonjour.
Et pour les questions juridiques, Malik Douaoui est avec nous, avocat associé au cabinet Deloitte. Bonjour Malik.
Bonjour Sandra.
Les outils RH, la transparence salariale, c'est parti.
BFM Entreprise, les outils RH.
Je parlais de retard dans cette introduction. Juliette nous demande en effet pour vous, Marie, la France est en retard, mais elle n'est pas la seule. Est-ce que la directive est inapplicable, Marie? C'est vrai qu'on a eu une actu récemment sur le timing et la transposition dans le droit français. On va peut-être dire où on en est réellement.
Alors, effectivement, la France est en retard. La directive date de mai 2023. Donc là, récemment, il y a eu des échanges avec les partenaires sociaux. En mars, il y avait déjà eu un premier projet. La semaine dernière, il y a eu un nouveau projet de loi. Donc normalement, la directive aurait dû être transposée au 7 juin 2026. Donc, on est en retard. On est en retard et récemment, le ministre du Travail a dit qu'il y aurait peut-être une application en janvier 2028. Donc, entre 2023 et 2028, il y a 5 ans, ce qui est énorme. Mais la France n'est pas toute seule. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'autres pays sont également en retard. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple le cas de la Suède. La Suède, en matière d'égalité homme-femme, c'est pas le dernier pays de l'Union européenne. Et pour autant, ils ont contesté cette directive, car trop lourde pour les entreprises, trop d'obligations. Et la question de savoir si la directive est inapplicable peut se poser, mais je dirais plutôt qu'elle est inconfortable. Elle est inconfortable parce que ça nécessite beaucoup de travail pour les organisations.
Oui.
Donc un temps de préparation, nous qu'on évalue, ça dépend des tailles des entreprises, mais globalement à 7-8 mois. Donc c'est assez lourd à mettre en place.
Pierre Gousset, justement, vous êtes vous dans ce domaine, vous êtes un éditeur de logiciels RH, vous êtes côté finance, côté RH. Là on parle justement de l'application, de la mise en conformité avec la façon dont les entreprises travaillent aujourd'hui. Vous, chez Workday, comment vous l'appréhendez finalement, la mise en place de cette directive? Qu'est-ce qu'on vous demande au jour d'aujourd'hui?
Alors d'abord, personne ne niera la complexité de la directive en tant que telle. Ensuite, le fait qu'elles doivent être transposées dans les législations de droit interne, ce qui ajoute de la complexité à l'édifice. Mais nous, on nous sollicite. Pourquoi? Parce que d'un côté, on équipe, je prends l'exemple de la France, près de 50% du CAC 40. En même temps, 65% de nos clients sont des entreprises de taille intermédiaire. Donc, elles se retrouvent confrontées à leurs nouvelles obligations, qui sont des obligations de reporting, mais elles se rendent compte aussi que ça va bien au-delà des obligations de publication de données ou d'indicateurs et qu'il va falloir se réorganiser pour rendre ça possible. Donc, nous, on s'est mis en ordre de marche il y a 18 mois maintenant pour qu'en tant qu'éditeur nous puissions fournir une solution à nos clients qu'on a déployé en interne depuis cette semaine en Italie, puisque l'Italie fait partie des quelques pays avec la Lituanie et la Slovaquie à être en avance sur le reste. Depuis ce lundi, nos employés en Italie ont le droit d'exercer leur droit à l'information par l'intermédiaire de nos solutions. Et ils peuvent également, s'ils candidatent à un poste ouvert en Italie, demander à ce que la rémunération ou une fourchette de rémunération leur soit communiquée avant l'entretien.
J'allais dire que finalement, ces retards entre les pays et ce timing, on voit ça comme une mauvaise nouvelle, mais au vu de ce que vous nous dites, finalement, il va y avoir des tests, peut-être qu'on va un peu observer, Marie, ce qui se fait sur les pays qui sont les plus prêts. Ça va peut-être nous aider à un petit peu avancer dans le concret pour les entreprises. Malik, une question d'Amoury. La transparence salariale, déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va changer pour les salariés et les entreprises? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du « mon collègue gagne tant, je veux la même chose ». C'est plus compliqué que ça, Malik.
Tout à fait. Alors, on pourrait dire, pour faire simple, que beaucoup de choses devraient changer. Et j'allais dire, ce n'est pas pour demain, parce que comme l'a rappelé tout à l'heure Marie, on est en cours de transposition, juste pour revenir sur les propos de Marie tout à l'heure. C'est une directive européenne, Marie l'a rappelé, 27 pays dans l'Union européenne, 6 pays ont transposé, dont l'Italie, 6 pays n'ont rien fait, et 15 autres pays sont en cours de transposition. Donc le chemin, il est encore long, et comme le rappelait tout à l'heure aujourd'hui Marie, le ministre du Travail nous dit la loi devrait être votée d'ici à la fin de l'année, avec en réalité une mise en application bien postérieure, puisque selon les dispositions en cause, on peut aller de 3 à 6 ans en particulier sur les indicateurs que doivent produire l'entreprise sur la transparence salariale. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce qui va changer concrètement? J'allais dire que c'est d'abord un changement pour les entreprises. Pierre y est revenu tout à l'heure avec une obligation de transparence salariale. La transparence salariale, c'est quoi? C'est rendre plus visibles les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Pour lutter contre ces écarts, y est remédier au fond, c'est faire en sorte que le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et même plus largement le principe d'égalité des rémunérations tout court, deviennent effectifs dans les entreprises et auprès des salariés. Mmh. Donc pour les entreprises, c'est à la fois de la transparence salariale avec la publication d'indicateurs, et en particulier le fameux indicateur qui casse les pieds des entreprises, qui leur fait faire des cauchemars, en particulier au président du MNEF, dont on vient dire « Ah, c'est un monstre juridique cette transparence salariale !» C'est en particulier l'indicateur sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes par catégorie de salariés qui exercent un même travail ou un travail de valeur égale. Donc, la transparence salariale, c'est d'abord ça. Et c'est aussi pour les salariés le droit d'avoir des informations sur les rémunérations les concernant et concernant leurs collègues de travail qui font un même travail ou un travail de même valeur.
Poste équivalent, effectivement, ça
absolument.
C'est très, 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 très important. Et ce n'est pas qu'une question de genre, effectivement, c'est vraiment aussi une question de fonction. Boutena, j'ai un peu envie de vous poser la même question qu'à Pierre, c'est-à-dire vous, en tant que finalement fondatrice du cabinet The Helper, est-ce que vous avez des demandes des entreprises qui se font un peu plus pressantes dernièrement sur ce sujet-là pour une mise en place concrète, ou alors les entreprises freinent des cas de fer et feront ça quand elles seront obligées de le faire?
En fait, c'est plutôt un révélateur ou un événement déclencheur de toute la question du pilotage RH. Aujourd'hui, la fonction RH se laisse piloter par des indicateurs assez classiques, masse salariale, absentéisme, des éléments assez macro, mais pas plus fin au niveau des équipes, au niveau des postes, au niveau des formations. On va piloter la masse budgétaire de formation, mais on ne va pas aller voir combien de personnes les sollicitent, quel est le nombre de gens. Et je me souviens, parce qu'à The Helper, on avait même développé un outil de data RH, et ça a fait un bide total, je vous le dis. Officiellement, on a même tué ce projet, parce qu'en fait, les RH en fait, n'arrivaient pas à appréhender l'utilité. Donc bien sûr, là, on a, on va dire, une excuse réglementaire qui va obliger tout le monde d'y passer, mais il y a tout un sujet culturel et organisationnel qui est difficile d'appréhender sur ça.
Et Lucas vous pose la même question. Honnêtement, dans les entreprises que vous accompagnez, Marie, est-ce que c'est vraiment une priorité ou est-ce que c'est le dernier sujet sur la liste?
Alors, ça dépend des entreprises. On a quand même, moi je distingue trois types d'entreprises dans la compagnie, enfin, qu'on côtoie. Il y a un premier type d'entreprise, généralement des très grosses, et ou secteur tertiaire financier. Et là, ils sont partis il y a plus d'un an. Donc, ils ont fiabilisé les données, ils ont identifié les catégories de travail de travailleurs ayant des postes de même valeur ou comparables. Ils ont commencé à refaire tous leurs process RH, revu leur classification, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les plus avancées, elles en sont au stade. Maintenant, comment je prépare mes managers au choc? Donc ça, c'est les premières, celles qui sont le plus avancées. Ensuite, on a une deuxième catégorie d'entreprises qui savent de quoi on parle. Voilà, elles ont lu la directive, elles ont été à des conférences, elles ont commencé à fiabiliser des données, à se poser des questions, mais voilà, en attente d'arbitrage. Et puis, la troisième catégorie d'entreprises, c'est quand même le gros de la troupe aujourd'hui, c'est vague. Donc là, on est clairement dans l'attente du projet de loi, de ce qui va tomber, et le chantier, quand il va tomber, il va être un petit peu dur à adresser.
Pierre, vous avez observé un peu la même chose parmi vos clients, ce même type de questionnement en fonction aussi de la taille de la structure. Enfin, comment ça
la même chose.
Alors, la réflexion.
Il y a eu un premier phénomène qu'on a observé, nous, lorsqu'on a commencé à travailler sur ce sujet, c'est le fait que beaucoup d'entreprises se sont concentrées sur les obligations de publication et les indicateurs, sans trop se concentrer sur un autre pan du dispositif qui est au moins important, qui est celui du droit à l'information. Donc là, on voit que maintenant, les choses se rééquilibrent et que les organisations comprennent les enjeux pour elles. Les enjeux sont techniques et opérationnels. Il y a un enjeu très fort pour les entreprises, c'est d'abord être capable, effectivement, de référencer leur catalogue d'emploi, de réfléchir organisationnellement comment être capable d'identifier des catégories de salariés qui effectuent un travail soi-disant à valeur équivalente. Donc, il y a un sujet organisationnel, très clairement, qui touche à la fonction RH. Le deuxième, c'est d'être capable de consolider des données de rémunération sur votre fixe, sur votre variable, sur vos avantages, sur toute autre forme de rémunération indirecte. Et ça, cette information, généralement, elle est dispersée dans de multiples systèmes. Donc, ce travail de consolidation de la donnée de rémunération, elle est importante, à partir de laquelle vous allez pouvoir commencer à analyser les écarts. Mais pour cela, effectivement, il faut que, techniquement, les organisations soient équipées. Ce qu'on voit également aujourd'hui, c'est que tout le monde se rend compte que lorsqu'on donne un droit à l'information qui choisit chez un candidat, à un employé, ce droit, il ne va pas être satisfait simplement en donnant un chiffre. Il faut que ce chiffre soit encadré, il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il passe par des mécanismes qui sont propres à celui de l'entreprise pour respecter le devoir de confidentialité, la sécurité. Il faut aussi que quand vous publiez des informations à un salarié pour lui dire comment sa rémunération se compare à la rémunération moyenne des hommes et des femmes pour un travail à valeur égale, cette donnée, elle soit partagée de manière sécurisée, parce que cette information, elle est valable à un instant T, elle sera plus valable dans un an, elle sera plus valable dans 18 mois. Donc, c'est ce qui nécessite un problème complexe, une solution globale. Et la dernière chose que j'ajouterais, c'est que n'oublions pas que même dans les entreprises de taille intermédiaire, puisque la France va faire sans doute un peu de zèle pour descendre le seuil en dessous duquel ces obligations de reporting seront appliquées, mais même dans des organisations de taille intermédiaire, beaucoup d'entre elles opèrent dans plusieurs pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elles vont devoir se mettre en ordre de marche pour être conformes non seulement à la transposition de la directive dans le droit français, mais dans la transposition de la directive dans tous les pays dans lesquels elles opèrent. Donc ça ne peut pas être une solution tactique pour un pays, il faut que ce soit une solution globale.
Boutena,
j'ajouterais que il ne faut pas oublier que chez les RH, leurs problématiques vont concerner aussi toutes les situations individuelles. Parce que quand vous parlez effectivement de rémunération, on peut avoir des avantages en temps, donc, ou même des avantages de modalité de travail. Donc tout ce qui est télétravail, mi-temps de travail, mi-temps thérapeutique, enfin un ensemble d'éléments qui vont faire que chaque individu, quand il vient travailler, va avoir des dispositions spécifiques à la demande du salarié et en activant des accords, un dialogue social qui a été mis en place. Donc, et ça, c'est très difficile à piloter parce que c'est souvent informel, verbal, voire entre manager et le salarié, et c'est très peu suivi par écrit.
Malik.
Ouais, moi, ce qui me frappe sur les entreprises, pour revenir sur les propos de Marie tout à l'heure, qui faisait une segmentation du marché en trois morceaux, il n'y a pas d'appétit pour la transparence salariale dans les entreprises.
Il y a un appétit du côté des salariés.
Ah, il y a un appétit clair et avéré du côté des salariés et des organisations syndicales qui disent encore « on aura enfin la vérité sur les prix ». Ça, c'est le mot d'ordre du côté des organisations syndicales. Mais du côté des employeurs, on traîne les pieds. C'est une nouvelle contrainte. On n'y voit pas encore en réalité une opportunité. C'est une contrainte et il faut faire avec.
Il y avait un moment, une émulation sur ça. Parce qu'il y avait une forme de contrainte à trouver des travailleurs, des talents. Donc il y a eu certaines entreprises qui ont commencé à jouer sur ça comme étant un avantage compétitif. Sauf qu'il y a eu la crise. Et là, elles ont un peu étouffé ce projet-là.
Marie ?
Vraiment, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, pour moi, il y a trois dimensions qu'on n'arrive pas toujours à bien réconcilier. En fait, il y a le citoyen. Le citoyen, il a des valeurs. Ces valeurs sont portées par l'Union européenne, sont portées par la directive transparence des rémunérations. Il y a le salarié qui veut avoir des droits. Et il y a le citoyen, mais citoyen qui est aussi consommateur. Et le consommateur, en fait, il ne va pas choisir forcément la solution, les éléments qui soutiennent son modèle social. Parce que on le voit, en fait, mettre en place incarner ses valeurs, organiser la transparence salariale dans l'entreprise pour une meilleure égalité homme-femme, bah, ça a un coût pour les entreprises, c'est un coût pour les entreprises françaises, c'est un coût pour les entreprises européennes.
Quand je vous écoute et quand on voit que finalement la transposition, la mise en place va vraiment dépendre des entreprises et de leur organisation et de comment elles ont pensé le problème, et quand on met ça face justement aux attentes des salariés, notamment sur l'égalité femmes-hommes, est-ce que finalement ça ne va pas créer plus de frustration, et est-ce qu'on va finalement répondre à cette question de départ, Malik, de cette volonté des gens d'être payés de façon plus juste, oui. Malik ?
Alors d'abord, j'allais dire, c'est une volonté légitime et justifié juridiquement, parce que le principe de la transparence salariale, si on fait un peu la généalogie du concept, il faut revenir au principe général d'égalité, qui est un principe fondamental du droit, principe constitutionnel, principe garanti par les traités internationaux, qui a donné lieu après à une application du principe d'égalité de traitement, autrement dit, les salariés placés dans une situation identique doivent être traités de la même manière, qui s'est lui-même décliné en un principe d'égalité de traitement en matière de rémunération, qu'on incarne avec le principe à travail égal, salaire égal. Si on fait le même boulot, si on fait un travail équivalent, on doit être payé de la même manière, sachant qu'on a une conception très large de la rémunération. Et enfin, qu'on décline au niveau homme-femme. Mmh. Donc, on doit avoir la même rémunération entre les hommes et les femmes. Et pour le coup, quand on regarde les statistiques, on voit clairement quand même qu'il y a une inégalité salariée entre les hommes et les femmes. De manière générale, on a plus de 20% en France. Et pour un même poste et au sein du même établissement, 3,6%. Donc, il y a une vraie inégalité. Donc, il est légitime pour les salariés de se dire, je veux savoir comment je suis payé, puis surtout, comment ceux qui font le même travail que moi, un travail équivalent, sont payés, de manière à recevoir la même rémunération. Et c'est évidemment, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça que les employeurs ne l'aiment pas beaucoup, une atteinte directe à leur pouvoir de direction, parce que le vrai pouvoir de l'employeur, c'est de dire, Pierre, t'es payé à 100, et puis Marie, c'est 120, et puis Boutena, ce sera 80 seulement. Et absolument, c'est comme ça.
Absolument. C'est peut-être le sujet d'ailleurs le plus polémique pour les entreprises, c'est-à-dire cette obligation qui leur est faite de rendre publique la manière dont elles fixent leur rémunération et la progression de carrière pour les différents individus. Et néanmoins, je pense qu'il y a un aspect très positif aussi. D'abord, le traité de Rome prévoyait lui-même dès 57 que à salaire égal salaire égal pour les hommes
et les femmes. Longtemps, on
débat beaucoup aujourd'hui sur cette notion complexe à appréhender qui est d'un travail à valeur égale, mais c'est quelque chose qui a été précisé par la jurisprudence depuis bien nombre d'années. Donc on ne découvre pas quelque chose de nouveau. Ce qui est difficile, c'est opérationnellement comment faire en sorte qu'on rende cette applicabilité effective. Or, l'opportunité, elle est que, par exemple, lorsqu'on va évaluer des écarts de rémunération entre hommes-femmes et travail équivalent, on va y appliquer forcément des facteurs de pondération qui sont liés aux conditions de travail, aux responsabilités, aux compétences. Le prisme des compétences, je pense, est un prisme très important. Et c'est là que se situe aussi l'opportunité pour donner du sens à sa politique de rémunération, mais aussi donner du sens aux salariés pour leur faire comprendre là où les compétences, si développées ou si acquises par les employés, peuvent conduire à une évolution salariale plus importante que celle qu'ils ont dans le travail qu'ils occupent aujourd'hui.
Le temps passe très vite, alors je vais quand même poser deux questions essentielles. Déjà, si on se place du côté de l'entreprise, il y a Rémi qui nous demande comment on accompagne Marie, une entreprise qui n'a pas commencé, comment faire pour qu'elle avance et quelles sont les priorités pour lancer la machine, premièrement.
Alors, pour lancer la machine, déjà quand même, prendre connaissance des nouvelles obligations. Hein. Ça, c'est la base. De quoi on parle ? Deux, il y a vraiment le sujet de la fiabilisation des données. À un moment, ça prend quand même du temps de fiabiliser des données. La notion de rémunération est très large. Donc, il faut avoir des données qui sont bien collectées. Ensuite, il y a vraiment l'identification des catégories de qui ont un travail de même valeur ou équivalent. Ça, c'est le gros travail. Et donc, pour ça, si on a une classification qui est récente, avec des critères classants, on a à peu près 60 à 70% du travail qui est fait. Si on ne l'a pas, il faut s'inquiéter. Donc, il va falloir vraiment travailler sur le sujet. Donc, on réfléchit à ces catégories, on fait des simulations, mais c'est ça le début. Hein. Mmh. Et après, on réfléchit à ces process RH, les modalités de communication, un certain nombre de choses.
Ça veut dire que, par exemple, avant de faire appel à vous pour organiser tout ça, il va falloir que l'entreprise, Pierre, ait déjà avancé sur une sacrée réflexion sur comment elle va, enfin, sur son organisation et faire ce type de diagnostic.
Ouais, le modèle opératoire qu'on rencontre, que nous, on a appliqué en interne, mais qu'on rencontre, parce qu'on a plusieurs de nos clients qui sont aujourd'hui en production sur ces solutions-là. Ça commence toujours effectivement par en interne ou avec l'appui d'un conseil juridique et d'un conseil organisationnel, cette réflexion sur où sont mes données, cette réflexion sur comment je relie ces données à mon catalogue d'emploi, de façon à ce que je puisse catégoriser mes salariés pour identifier les dix travaux à valeur équivalente. Et puis ensuite, une fois que ce travail est fait, on commence le travail de consolidation des données, sur lesquelles la solution va appliquer les méthodes de calcul qui sont prévues par la directive, produire les indicateurs nécessaires et surtout instrumenter le droit à l'information, puisque le droit à l'information, c'est pas une information, c'est vraiment un processus par lequel l'entreprise rend possible l'accès à une information, mais vous voulez qu'il soit sécurisé, vous voulez ensuite que l'entreprise, en fonction de ses besoins, de ses besoins opérationnels, puisse avoir la flexibilité de déterminer comment ces mécanismes seront rendus opérationnels dans les différents pays. Sachant, je le rappelle, très important, c'est que chaque pays est aujourd'hui transpose en droit interne la directive avec des nuances que l'on voit. Et donc, évidemment, il faut à chaque fois, et en fonction du pays où les employés sont basés, que la solution corresponde. Donc, solution à la complexité du besoin doit répondre à une solution globale qui est souvent un mix entre un conseil juridique et opérationnel, au départ, et puis ensuite la mise en œuvre technique et opérationnelle à travers des solutions comme les nôtres.
J'ai aussi une question du coup du côté des salariés, avec cette grande attente. Je peux vous dire qu'on en discute dans les bureaux de cette directive sur la transparence salariale. Il y a beaucoup d'espoir derrière ça, évidemment. Il y a des fantasmes. Concrètement, Malik, le droit du salarié, il va avoir le droit de faire quoi et quand par rapport à cette directive? On commence quand à s'en inquiéter en tant que salarié dans son entreprise?
Okay. Alors, en fait, c'est assez difficile de répondre à la question parce que Marie l'a dit tout à l'heure, rien n'est fait et j'ai envie de dire tout reste à faire. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on a une directive, on a un avant-projet de loi, mais on n'a pas une loi qui est votée, les décrets d'application n'ont pas été pris. On n'a pas encore de Q&A, donc de questions-réponses qui seront établies par l'administration. Donc en fait, on ne connaît pas aujourd'hui le dispositif. On connaît, on va dire, l'ossature du dispositif, les principes qui irriguent le dispositif, mais on ne connaît pas dans le détail le dispositif. Alors pour en revenir au droit à l'information dont Pierre a parlé tout à l'heure, et le droit pour le salarié, alors c'est un droit qui commence au moment de l'embauche. Parce qu'au moment de l'embauche, si vous faites paraître une annonce, Sandra, eh bien dans votre annonce, si vous recrutez un journaliste, eh bien vous devrez indiquer quelle est la fourchette de rémunération.
Ça, c'est une des grandes avancées concrètes.
Absolument. Et vous n'aurez pas le droit de m'interroger sur Mali, combien tu gagnais avant dans ton emploi et dans ton précédent emploi. Ça, parle pas, d'accord? Et j'ai même le droit de divulguer ma rémunération. Ça, c'est au moment de l'embauche. Pendant l'exécution du contrat, c'est quoi? C'est d'abord l'obligation de l'employeur d'informer les salariés qu'ils ont le droit de demander certaines informations, des informations sur leur propre rémunération et surtout sur les rémunérations moyennes des salariés qui accomplissent un travail de même valeur. On en revient à qu'est-ce que c'est qu'un travail de même valeur. Souvent, je donne le même exemple parce qu'il est assez éclairant. Eh ben, la DRH qui appartient au même comité de direction qu'un directeur financier ou qu'un directeur commercial fait un travail de même valeur alors que les fonctions ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un travail qui est équivalent en fonction des connaissances, de l'expérience, des responsabilités, avec une définition qui est donnée d'ailleurs dans le Code du travail et qui est remaniée avec l'avant-projet de loi.
Marie ?
Oui, alors vraiment, le cœur des inquiétudes, c'est quand même ce droit à l'information.
Ouais.
Après, il y a un an, on a fait partir une enquête auprès de plus d'une centaine de DRH et CNB et on leur demandait, à votre avis, dans votre organisation, quel est le pourcentage de salariés qui va exercer son droit à l'information. Alors là, les réponses, ça partait dans tous les sens. On allait de 15% à 75%, ouais. On a essayé de faire des croisements, taille d'entreprise, secteur d'activité, rien. Donc, c'est vraiment la grande inconnue. Plus récemment, l'APEC sort de très belles études, et notamment ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que finalement, les hommes pourraient plus activer ce droit à l'information.
Ouais, évidemment.
Que les femmes.
Les hommes qui ont beaucoup moins de problèmes à parler de rémunération, à demander des augmentations, ça ne va pas changer. On est bien d'accord, Boutena, pour finir.
Oui, et puis j'allais rappeler, en fait, en gros, il va y avoir deux temps forts. Le premier temps fort, c'est au recrutement. Le deuxième temps fort, ça va être à l'évaluation annuelle. Et là, c'est de la grande inquiétude parce que les managers ne sont pas toujours à même de pouvoir répondre à la question du budget, de l'évolution salariale et à gérer la frustration du non je n'ai pas une augmentation à te prévoir. Après, il y a des entreprises, typiquement comme Anthropique, eux, ils ne se cassent pas la tête, ils proposent le même salaire à tout le monde au même grade. Donc, en fait, la question, c'est qu'aujourd'hui, c'est une révolution culturelle qui va se proposer dans les entreprises françaises qui n'ont pas l'habitude de parler d'argent, qui n'ont pas l'habitude de parler d'argent de manière groupée, parce que ce sont des discussions de café, et que c'est ça, en fait, le on va dire, le nœud de émotionnel du sujet, et il faut savoir être prêt, et c'est pas les process qui vont sauver l'histoire.
Il y a un gros nœud émotionnel. Pour finir, Claire.
Non, ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part de nos clients, c'est-à-dire que c'est un changement culturel pour certains pays, moins pour d'autres. Ce qui est certain, c'est qu'en appliquant cette directive de manière uniforme sur 27 pays, forcément, il y a l'harmonisation dont on a parlé avec cette directive, va avoir lieu à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que les droits à l'information, s'il devient un droit qu'exerce plus généralement tous les employés, va conduire de toute façon à cette transparence. L'impact pour qu'on n'a pas à évoquer, c'est l'impact budgétaire aussi pour l'entreprise,
bien sûr,
de corriger ses écarts. Donc ça, c'est aussi un des outillages à mettre en œuvre.
Ça, vos collègues m'ont dit, Malik, ils commençaient à se renseigner justement sur ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient surtout pas fait jusqu'ici, et que ça commençait à inquiéter quand même certains dirigeants. Merci en tout cas d'être venu dans cette émission consacrée à cette directive sur la transparence salariale. Vous voyez que on pourra en refaire des émissions comme ça. Parce que ça avance, mais ça avance lentement et il y a encore beaucoup de questions. Merci Marie Bouni, associée chez SIA. Merci Boutena Burkel, fondatrice du cabinet d'Helper. Pierre Gousset, vice-président en charge de l'innovation chez Workday pour l'Europe. Et Malik Douaoui, associé au cabinet d'avocats Deloitte. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. À retrouver donc à 12h30 et je vous laisse. Très bonne journée sur BFM Business.
BFM Entreprise, les outils RH sur BFM Business.